France Inter.
Aujourd'hui, l'écologie est une science racontée par
Sébastien Barraud, chercheur en écologie à l'Institut de recherche pour le développement.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
L'écologie est une science, pas une idéologie, bordel de merde. Cette phrase faisait l'année dernière l'objet d'un édito de Gaël Clouzard, rédacteur en chef du Média Good. Et voilà ce qu'il écrivait dans son texte. Depuis une bonne décennie, la politique s'est transformée en une vaste foire idéologique où l'émotion et les convictions l'emportent sur toute forme de vérité. L'écologie n'est pas épargnée et elle en souffre énormément. La vérité, mais on s'en cogne sévère le popotin, et l'avis des scientifiques encore plus. Car la science qui fait le diagnostic de la crise environnementale, qui analyse les ressorts, qui peut suggérer des solutions, reste méconnue. En France, le mot écologie est plus facilement associé à des mouvements politiques, voire ésotériques, qu'à une science. Cela discrédite la parole des chercheurs en écologie, dont le discours paraît idéologique, alors même qu'ils ne font qu'exposer leurs résultats avec la même objectivité qu'un chimiste ou un physicien. Pire, sous la tutelle d'un courant politique, elle clive les citoyens qui n'arrivent pas à se retrouver derrière une idéologie écologique qui épouse des thèses sociales, mystiques ou économiques, tout en faisant tomber les scientifiques de leur piédestal. Et une des raisons majeures de ce bric-à-brac, poursuit l'éditorialiste, est la confusion entre écologie et écologisme. Le premier terme renvoie à une discipline scientifique, le second à une idéologie politique dont l'ambition est la décroissance et l'opposition à la vision prométhéenne de la science. Alors soyons honnêtes, cela peut s'entendre, il y a forcément des choses à prendre, mais la science, contrairement à l'idéologie, nous permet de bien connaître la nature et le vivant, et de les modifier pour nous adapter à ces contraintes environnementales. Et c'est tout le contraire d'une idéologie qui se contente de faire du déclaratif, basé sur de la théorie, donc quitte à le répéter, l'écologie est une science et non une idéologie. Elle ne doit jamais servir de cheval de Troie pour imposer un calendrier politique, économique, voire social de façade. C'est justement cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Sébastien Barraud.
Bonjour Mathieu.
Vous publiez chez Belin, l'écologie est une science. Est-ce que vous auriez aimé ajouter en titre, pas une idéologie, bordel de merde?
Bah, je pense que c'était exactement ça l'idée. Et puis effectivement, comme vous l'avez introduit, dans cette période un peu où les sciences sont attaquées, les sciences de l'environnement en particulier, la climatologie, etc., remettre sur le devant de la table le fait que, à la base, l'écologie, c'est une science, ça fait vraiment partie de mon intention première en écrivant ce livre. Et du coup, j'ai vraiment essayé à la fois de donner des bases sur ce que c'était que cette science, et des bases un peu de fonctionnement, de la biodiversité, des systèmes écologiques. Et j'ai vraiment, je ne fais que rassembler des données, des résultats qui font preuve d'un consensus très général dans la communauté des chercheurs en écologie, et qu'on peut par exemple lire dans les rapports de l'IPBES, le GIEC de la biodiversité.
Vous racontez qu'aujourd'hui, en pleine crise environnementale, les gens ne comprennent pas toujours que vous étudiez précisément l'écologie parce que ça ne paraît pas sérieux comme sujet d'étude.
Oui, alors c'est une anecdote qui est un peu ancienne, mais c'est vrai que ça m'est souvent arrivé de discuter avec des gens qui ne connaissaient pas le monde universitaire ou peut-être le monde universitaire dans d'autres disciplines et qui me demandaient, mais ok, je fais une thèse en écologie, je fais des recherches en écologie, mais vous avez étudié quoi?
Ouais.
J'ai étudié l'écologie. C'est une science, donc à un moment donné, il y a des masters en écologie, il y a tout un tas de cursus en écologie.
Ouais.
Il faut se former, c'est compliqué, ça demande du travail, et voilà.
Ouais, la biologie, ça paraît plus sérieux, c'est ça, hein?
Et la biologie, la physique, la chimie, ça paraît plus sérieux.
Ouais.
Et une autre chose que j'explique justement dans le livre, c'est que l'écologie, c'est vraiment à cheval entre la biologie et les sciences de l'univers. C'est des interactions entre des organismes vivants, mm-hmm. donc de la biologie, et le milieu physico-chimique, le climat, la physique et la chimie du sol, la physique et la chimie des océans.
Donc le spectre est large.
Hein. Le spectre est large, et du coup, il faut faire interagir tout ça. Et le fait qu'on fait appel à d'autres sciences, ça contribue peut-être aussi un peu à l'invisibilisation de la science écologique, parce que les gens, ils savent plus trop à quoi ils ont affaire.
Ouais. Autre argument, justement, pour essayer de comprendre cette méconnaissance de l'écologie scientifique, c'est la jeunesse aussi de cette discipline, finalement.
Oui, alors, c'est vrai que le terme, il a été inventé par Ernst Haeckel en 1866. Alors, ça paraît vieux, mais par rapport aux autres sciences, comme la biologie, la physique et la chimie, c'est assez récent. Et puis, en fait, en France, l'écologie s'est développée dans les années 60-70. La Société française d'écologie a été créée, par exemple, en 1968. Mmh. Et du coup, les premiers, les premiers masters ou l'équivalent en écologie ont été créés à peu près à la même époque. Et du coup, c'est vraiment récent par rapport.
Ouais. Et puis il y a cet amalgame parce que aussi en France, on utilise le même mot pour parler de la science et des mouvements politiques environnementalistes. En fait, c'est ça aussi. Hein.
Oui. Ben, je pense que cet amalgame, il est. Alors, on peut le comprendre, mais il est assez dommageable aux faits scientifiques. Mmh. Et du coup, il est aussi assez dommageable à la cause environnementale, parce que. En fait, la plupart, les courants environnementalistes, les partis politiques qui ont un programme pour une transition environnementale, dans la plupart des cas, ils ne font que retransmettre, ils ne font que traduire les conséquences des résultats scientifiques, en fait. Mmh. Du coup, au départ, la science, l'écologie, c'est une science, mais qui supporte le mouvement environnementaliste. Mais on oublie ce lien et cette filiation. Quoi.
Et donc, ça invisibilise, selon vous, ça dessert presque la cause scientifique ?
Oui, puisque très souvent, des discours qui vont être soit par des associations, soit par des scientifiques comme moi, on va les mettre sur le même niveau, et de toute façon, on va dire que c'est de l'idéologie. Mais on oublie que derrière, c'est des données, c'est des milliers d'études qui ont été publiées, qui ont été vérifiées avec des méthodes rigoureuses. Et donc, ça contribue à la fois à desservir la science et à la fois à desservir la cause environnementale.
Pourtant, je vous trouve un peu sévère parce que beaucoup d'ONG, la plupart même, se basent sur les rapports scientifiques.
Je pense que la plupart des ONG font très bien leur travail et se basent sur ces études scientifiques. Et le plus possible, mettent en avant, vont citer les résultats scientifiques. Etc.
Donc ça, on n'a rien à leur reprocher, en fait.
Non, on n'a absolument rien à leur reprocher. Par contre, on peut quand même s'interroger sur cette invisibilisation de la science écologique et des résultats de cette science. Et après, il faut essayer d'aller creuser dans les intentions des gens qui attaquent la science.
Est-ce que seuls les écologues devraient parler d'écologie ?
Non, je pense que tout le monde doit parler d'écologie. Je pense que tant que le discours est basé sur la science et sur une forme de rationalité et de prise en compte des données, tout le monde peut parler d'écologie, évidemment, et tout le monde a un rôle à jouer. Dans le livre, je regrette un peu que souvent dans les médias, dans le temps, on entendait parler Hubert Reeves. Alors moi, j'aimais beaucoup Hubert Reeves et il avait vraiment un rôle important à jouer.
Mais vous le préfériez en tant qu'astrophysicien
De temps en temps, il était meilleur en astrophysique qu'en écologie ou en tout cas sur le contenu environnementaliste.
Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il a fait beaucoup quand même pour la cause environnementale ?
Je pense qu'il a fait beaucoup.
Qu'il avait quand même aussi une voix qui était écoutée.
Oui, non, mais je pense qu'il a vraiment joué un rôle important. C'est juste qu'à un moment donné, faire parler des chercheurs en écologie, c'est bien aussi.
Oui. Mais est-ce qu'on pourrait pas vous retourner finalement le compliment en vous disant qu'on vous entend pas suffisamment et que précisément certaines voix font presque mieux le boulot parce qu'elles arrivent précisément à se faire entendre.
Alors de nouveau, toutes les voix qui portent et qui sont construites et qui sont basées sur les données, elles sont bonnes à prendre. Ce qu'il faut voir, c'est que pour un chercheur, c'est pas complètement évident de venir à la Terre au carré. Alors déjà, on n'est pas invité...
Alors ça, vous exagérez. On n'invite que des scientifiques dans cette émission.
Tout à fait, mais par contre, ça a été un long parcours pour moi. J'ai mis une dizaine d'années à écrire un livre, pour synthétiser ma pensée, etc. Il y a un côté, quels sont les créneaux médiatiques pour parler. Mmh. Et France Inter, la Terre au carré font vraiment très bien le job, mais c'est pas partout pareil dans les médias. Mmh. Et après, il y a aussi un travail à faire du côté des chercheurs. C'est pas complètement évident pour un chercheur d'expliquer ses résultats pour un public très large. Mmh. Dans le livre que j'ai écrit, j'essaye vraiment de décrire des bases scientifiques qui peuvent être parfois un peu techniques, mais j'essaye vraiment de les expliquer d'une manière facile d'accès, avec des mots relativement simples, il y a un glossaire, mais c'est déjà une démarche qui demande un travail supplémentaire et qui n'est pas facile.
On va écouter la voix de Greta Thunberg. C'était devant le Congrès des États-Unis le 18 septembre 2019. Voilà ce qu'elle disait au sujet de la science.
I have not come to offer any prepared remarks.
Je ne suis pas venue devant vous pour faire des remarques, mais plutôt pour ajouter mon témoignage. Il s'agit du rapport spécial du GIEC sur le réchauffement climatique de 1,5 degré. Et je soumets ce rapport à titre de témoignage, car je ne souhaite pas que vous m'écoutiez moi, mais que vous écoutiez les scientifiques, que vous vous unissiez derrière la science et que vous agissiez concrètement. Nous écoutons les meilleures informations scientifiques disponibles actuellement, et c'est une chose que chacun devrait faire. Il ne s'agit pas d'opinion politique ou de mes opinions, mais de science.
Voilà, Greta Thunberg en 2019, Sébastien Baron. On ne peut pas lui reprocher de ne pas être clair là-dessus.
Non, non, c'est parfait.
Et son discours est très, très sensible sur cette question, hein.
Son discours est parfait. En gros, ça colle avec ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que c'est une voix non scientifique, mais qui dit qu'il faut d'abord prendre en compte la science.
Et elle se base aussi.
Et elle se base sur la science, dans les conclusions qu'elle tire, etc. Et puis elle a été bien médiatisée, donc je pense qu'elle a joué un rôle extrêmement... un rôle positif. Elle dit, effectivement, elle parle en gros de formation et de sensibilisation. Et c'est vrai que ce qui est impressionnant quand on discute un peu avec le personnel économique, politique, c'est que souvent, ils n'ont aucune idée. Alors, ils ne savent pas que l'écologie est une science, mais ils ont encore moins de notions de ce qu'il y a vraiment dans cette science. Et du coup, j'espère qu'ils liront le livre, parce qu'il y a vraiment plein de choses à apprendre, importantes. Et y compris, enfin, une façon de dire ça, c'est que, sur la planète Terre, au niveau de la biosphère, en fait, il y a des limites écologiques et matérielles que on peut pas dépasser. Et alors, on peut formaliser ça sous forme sur la notion de limite planétaire. Mm-hmm. Mais du coup, c'est vraiment l'idée que quand on lit tous ces rapports scientifiques, etc., on comprend qu'il y a des limites matérielles qu'on peut pas dépasser. Alors, les sociétés, certains courants politiques peuvent dire non, on va s'asseoir là-dessus, mais c'est pas possible. Ce sont des limites matérielles infranchissables.
C'est quoi votre meilleure définition de l'écologie, alors, vous, en tant que scientifique, en tant qu'écologue, précisément ?
Alors, c'est une définition qui est très proche de celle d'Ekel. En fait, l'écologie, c'est la science qui s'occupe des interactions entre les organismes vivants et entre les organismes vivants et leur milieu physico-chimique. Mmh. Et du coup, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est forcément à cheval à l'interface entre la biologie et les sciences de l'univers, la géologie, la pédologie, la climatologie, parce qu'on doit intégrer des données qui viennent à la fois de la biologie et de ces sciences de l'univers.
Et l'évolution darwinienne, elle joue un rôle aussi important dans tous ces processus ?
Oui, alors... au cours de l'histoire des sciences, l'évolution des organismes et l'écologie des écosystèmes, etc., ont souvent été effectuées dans des laboratoires différents. C'est des courants académiques qui sont un peu séparés. Mais si on réfléchit un peu, moi, quand je travaille sur des palmiers, sur des vers de terre, sur la morue, en fait, les organismes sur lesquels je travaille, ils sont fruits d'une longue évolution. Et il y a tout un tas de cas où comprendre d'où ils viennent, ça va éclairer mes recherches en écologie sur ce qui se passe maintenant. Et à l'inverse, quand on travaille sur l'évolution des organismes, alors on peut travailler juste au niveau des gènes, etc., mais en fait, la sélection naturelle, les flux de gènes par en fait, le pollen qui est transporté d'une fleur à l'autre, les graines qui sont transportées d'un endroit à l'autre, tout ça c'est de l'écologie, c'est des interactions écologiques. Donc il y a vraiment des interactions très très fortes et des rétroactions entre écologie et évolution des organismes.
On va parler vers de terre, tiens, justement, dans un instant. Palmiers également, mais pas seulement. Et vous nous direz quel rôle l'écologie scientifique peut jouer aujourd'hui au cœur de la crise environnementale, Sébastien Barrault. Et puis vous répondrez aux messages et aux témoignages qui arrivent sur la page de La Terre au Carré. Et puis vos notes vocales pour vous entendre directement sur l'application Radio France. Go shorty.
J'arrive en dolé sur un deux roues. À cette heure-ci, je perçois les auras. Des lunettes pour les yeux rouges. Mes régies royales Torah. Ma pièce, je veux lancer seul. Ça sert à rien de casser ton dos. Hein. Quand elle m'approche, je suis paniqué. Je veux pas de leur follow. Des inhibés frais, je m'en fous de laquelle je ramène en Nissan. La mise pas mes paroles comme un prêtre en missa. Fais voir mon comme moi, mes miskines. Pas de visa. Je rentre dans le business. qu'elle est. Cherche ma famille, où est-ce qu'elle est. Un autre type, la skin est skin. La pente, c'est pas l'escalier. Les vallons flash, je vois la mer de nuages sans escale. Quand je descends, skate et je mise pas. Elle connaît le thème, je glitch, mais je suis moins fréquent, je pitch. Le mindset est freedom, baby, tu sais, rien m'oblige. Je lui dis WhatsApp, girl shit, merci, t'es la seule ici. Elles sont pas belles si j'aime ça, elles aiment si, elles n'aiment pas les MC. On est plus dans le Banks, mais la rue bande des mots, j'ai dépeint comme si j'étais Banksy. On finxie, on se retrouve en backseat, pas de fancy. Là c'est plus le sexe, ça sent Ukenzi. Même si elle est tellement fly quand il est 5 du matin, Candy. Dans un cap à XO pour qu'elle coupe au Pepsi.
Sauf quand il faut choisir celui qui mène la danse. Quand on parle, c'est français, mais ma chatte crée de la latence. Hein. Je diverge pas où je vais, baby, c'est tout droit. Et si tu penses trop, laisse-moi tout taire avec mon bolis sur toi. Je reste fair play si tu restes straight. Ce que t'entends, tu l'as jamais vu, tant que du respect. Tu sais, auto, y'en a trop qui cherchent à me tester. J'aime avoir le cœur dans les airs, mais c'est avec toi qu'il veut rester.
C'est avec moi qu'il faut rester. Je la mets sur moi, la mise à tout indexé. À Askip, je suis Mimi, les autres m'ont vu blexé. Bien vite dans la mini d'une nana complexée.
Et fâché quand mon bébé connaît tes tricks. Pour faire des bricks, lui et moi, un confort kata. Parce qu'on est des freaks. Peut pas me reposer tant qu'on n'est pas friqué. Baby, c'est un allié qui est marqué sur le ticket.
Go, go, shawty. Go, 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 shawty. Go, go, shawty. Go, 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 shawty. Go, 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 shawty. Go, 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 shawty.
Go, shawty.
Go, go. Je lui dis WhatsApp, que shit, merci. T'es la seule ici. Elles sont pas belles si j'aime ça. Elles aiment si elles aiment pas les MC. On est plus dans le texte, mais la rue bande des mots, j'y dépeins comme si j'étais Banksy. On finxie, on se retrouve en backseat, pas fancy. Là c'est plus le sexe, ça sent le Kenzie. Même si elle est tellement fly quand il est 5 du mat et Candy. T'aimes un cap à XO.
Phil, c'était Visa.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Après la soumission et l'agression, peut-être verra-t-on un jour l'humanité entrer dans une troisième phase que j'appellerai alors résolument la réconciliation de l'homme avec la nature. Mais alors ceci pose des problèmes qui sont plus simplement des problèmes techniques, des problèmes législatifs. Cela pose des problèmes d'ordre moral. Est-ce que l'homme acceptera de modifier son attitude vis-à-vis de la nature et en particulier des autres êtres vivants ? Acceptera-t-il de se considérer désormais comme un des éléments de la biosphère, comme on dit maintenant, ou bien est-ce qu'il continuera à se considérer comme le propriétaire de tout ce qui est à la surface du globe, avec le droit d'abus sur les ressources de la nature ?
La voix de Théodore Monod, c'était en 1968 dans une ancienne émission de science de l'ORTF qui s'appelait Eureka. Sébastien Barraud, vous qui êtes notre invité cet après-midi à l'occasion de la publication de votre ouvrage « L'écologie est une science » aux éditions Belin. Un livre qui commence d'ailleurs dans la savane. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, effectivement ?
Alors, historiquement, ça s'est passé complètement fortuitement. C'est parce que je cherchais un stage de M2. Et le stage que j'ai trouvé, c'était sur le palmier rognier qui pousse en Afrique de l'Ouest et entre autres en Côte d'Ivoire, dans la savane de Lamto. Et alors, c'est rigolo parce que j'ai déjeuné avec Théodore Monod dans la savane de Lamto.
C'est pas vrai.
Parce qu'il venait, alors c'était avant sa mort, quelques années avant sa mort. Il avait travaillé, il était passé en Côte d'Ivoire, etc. Et il faisait un dernier voyage avec sa fille.
Incroyable.
Et il est revenu à Lamto et il a déjeuné avec nous. Alors, il était aveugle.
Oui.
Mais c'était quelqu'un d'important pour l'écologie, oui. Alors plus l'environnementaliste, on va dire, mais c'était quelqu'un de très important.
Et là, on était en 68 dans cette archive, on voit la modernité de ses propos, parce qu'il est vraiment lanceur d'alerte hein, dans ce message-là qu'il envoie.
Ouais, alors ça, c'est quelque chose d'un peu inquiétant pour moi, c'est-à-dire que, en fait, les premières personnes qui ont fait des alertes sur l'environnement dans les années 60, 68, 70. Là, c'est Théodore Monod. Moi, cet été, je lisais Le Printemps silencieux de Rachel Carson. Et c'est incroyable, en fait, parce que ces gens, ils avaient tout compris, enfin, beaucoup de choses. Et ils lisaient Rachel Carson, c'était une scientifique vraiment qui travaillait sur les pesticides, etc. Et son discours est complètement valable de nos jours et on n'a rien pris en compte.
C'était aussi dans les années 60.
Voilà, c'était 62.
Ouais.
Je crois, son livre. livre et rien n'a évolué en fait. Et la loi du plomb, il faudrait que les gens qui ont écrit la loi du plomb, ils lisent Rachel Carson, quoi.
Oui, c'est vrai, ce serait un bon conseil. Ouais. On va en reparler parce qu'on va parler agroécologie avec vous tout à l'heure, parce que c'est aussi une des vertus de l'écologie scientifique, c'est non seulement de poser un diagnostic, mais de proposer aussi des solutions concrètes basées là aussi sur l'expérience, sur le terrain. Donc le terrain, vous le disiez, pour vous, ça a été la savane de la Côte d'Ivoire au départ, parce que, vous l'expliquez, ça permet évidemment d'être sur le terrain aux chercheurs, de vivre au milieu des écosystèmes et des organismes qu'ils étudient. Donc c'est une intimité physique qui est fondamentale.
Oui, tout à fait. Alors, il se trouve que comme je travaille à l'Institut de Recherche pour le Développement, dont c'est un organisme de recherche qui a les mêmes statuts que le CNRS, mais dont le but est d'aider le développement des pays du Sud et aussi le développement de leur système scientifique, je continue à travailler en Côte d'Ivoire et en particulier dans cette savane de Lamto. Et c'est du travail scientifique, mais c'est aussi une rencontre physique, intime, sensible, entre les chercheurs, et moi en particulier, et la savane de Lamto, que je connais maintenant un peu comme ma poche. Et du coup, c'est une savane qui fait 2700 hectares à peu près, donc c'est une petite réserve qui n'est pas très grande, mais par contre, les chercheurs dorment au milieu de la savane, et en 5 minutes de voiture ou 10 minutes de marche, on est sur le terrain et on peut prélever des échantillons, on peut manipuler l'écosystème pour le faire parler.
Alors, quand on parle savane, évidemment, on pense aux gros fauves. Vous, c'est le palmier qui vous...
Exactement, moi je pense que c'est beaucoup plus intéressant.
Pas n'importe lequel d'ailleurs.
Alors déjà en Afrique de l'Ouest, il n'y a plus beaucoup de... Alors je généralise un peu vite, mais en tout cas en Côte d'Ivoire, il n'y a plus beaucoup de grands mammifères. Il y a une autre réserve en Côte d'Ivoire où on peut trouver des éléphants et peut-être quelques lions et des chimpanzés. Mais du coup, dans la réserve de Lamto, il y a surtout il y a quelques buffles, quelques antilopes. Mm-hmm. Et moi, j'ai travaillé sur le palmier parce que...
Le palmier rogné.
Le palmier rogné. Donc, c'est un palmier qui pousse en Afrique de l'Ouest, en fait. Et même d'ailleurs, en Afrique australe. Et c'était un bon modèle écologique pour travailler sur la démographie des plantes. Et donc la démographie des plantes, c'est à peu près comme la démographie humaine. On essaye de regarder quels sont les taux de fécondité de ces organismes, leur taux de survie, leur taux de croissance. Mmh. Et après, je faisais des modèles mathématiques très proches des modèles démographiques qu'on utilise pour les êtres humains, pour voir si la population était à l'équilibre ou pas à l'équilibre. Et il se trouve qu'elle était... on est dans une réserve, elle est plutôt à l'équilibre.
Et alors justement, ces palmiers, qu'est-ce qu'ils vous ont appris concernant la crise que nous traversons, en travaillant là sur le terrain, en étudiant cette savane? Qu'est-ce que vous observez qui pourrait aussi nous servir d'enseignement ?
Alors, ce que je dirais, c'est que sur le palmier, c'était vraiment des choses intéressantes sur la démographie. Et puis, entre autres, c'était intéressant parce qu'en dehors de la réserve, le palmier rognier, en fait, il est menacé par l'exploitation humaine. Et entre autres, parce qu'on peut faire du vin de palme, et faire du vin de palme, ça implique de tuer le palmier. Donc ça, c'était une espèce de conclusion du travail. Après, ce qu'on fait dans la savane, qui, à mon avis, est vraiment pertinent, qui a une portée plus large, c'est vraiment ce qu'on a fait sur le fonctionnement de l'écosystème savane, et sur le cycle de l'azote en particulier. Donc ça a commencé par des travaux de Luc Abadi, au départ, qui était presque mon directeur de thèse, et puis mon collègue Jean-Christophe Latta. Et ça a une portée pour l'agriculture, l'agroécologie.
Et donc, on le disait tout à l'heure, l'écologie scientifique, ça te permet aussi un diagnostic objectif et de proposer des solutions concernant toutes les pressions anthropiques là, qui affectent les systèmes naturels.
Oui, du coup, l'écologie, elle fait un diagnostic sur l'état des écosystèmes, de la biodiversité, et donc toutes les données montrent que la biodiversité est en train de s'effondrer. Mais ensuite, elle est pertinente pour... documenter et conseiller toutes les activités humaines qui sont basées sur de la biodiversité. Alors, il y a tout ce qui est exploitation directe de la biodiversité, chasse, pêche, foresterie. Il y a l'agriculture. Finalement, l'agriculture, c'est manipuler un écosystème pour produire de la nourriture. Il y a ce que je décris pas mal dans le livre sur l'écologie urbaine. À quoi sert la biodiversité en ville ? Est-ce qu'on peut améliorer l'état de la biodiversité en ville pour atténuer les effets du changement climatique ? Améliorer le cadre de vie des habitants des villes. Et donc à chaque fois qu'on manipule de la biodiversité, à chaque fois qu'il faut préserver de la biodiversité, l'écologie a un mot à dire sur ce qui pourrait arriver si on fait pas ça, ce qui pourrait arriver si on fait ça, et donner des conseils.
Donc c'est des feuilles de route, au fond aussi, qui peuvent servir aux politiques, là, pour le coup.
C'est tout à fait l'objectif.
Ouais. Ça devrait servir à ça, en tout cas, normalement, parce que tous les politiques ne s'intéressent pas à la science. Les exemples sont nombreux. Un animal qui vous a beaucoup intéressé, donc vous le disiez tout à l'heure, c'est le ver de terre. Darwin s'y était intéressé, d'ailleurs, c'était le premier à montrer l'importance des vers de terre pour l'écologie des sols. C'est la première fois vraiment qu'on comprend prenez précisément la vie souterraine pour la formation des sols en étudiant les vers de terre.
Alors, ce qui est incroyable avec Darwin, c'est que tout à l'heure, on parlait des liens très forts entre science écologique et science de l'évolution. Et en fait, Darwin, il est connu pour l'origine des espèces, donc pour ses premières intuitions, sa théorisation de l'évolution des espèces. Et son dernier livre, c'est un livre d'écologie sur les vers de terre. Et donc, il décrit ce que font les vers de terre au sol, sur la construction des sols et sur l'évolution des sols. Donc là, c'était un peu des intuitions, mais c'était vraiment déjà de l'écologie. Et donc, Darwin, c'est aussi un écologue.
Animaux qui étaient considérés comme nuisibles, vous le rappelez aussi dans votre livre.
Tout à fait. Et même, il y a encore des endroits dans le monde où on pense que les vers de terre sont nuisibles.
On va écouter l'extrait d'une chaîne YouTube qui s'appelle Hortus Focus en 2019 autour des vers de terre.
Dans un terrain comme ça, c'est normal de voir beaucoup d'épigées. Il y a de la matière organique en surface, donc c'est une parcelle qui est conduite avec plusieurs plantes en même temps. Beaucoup de plantes fourragères qui permettent d'apporter de la matière organique et ce qui permet d'avoir de la nourriture pour les vers de terre. Donc l'agriculteur sait très bien ce qu'il fait en faisant ça. Donc ça, c'est un anisique aussi, c'est Lombricus rubellus. Alors là, c'est... Ah, il est encore dedans. Ah, tu m'as eu.
Voilà, c'est Cédric Nau, il est spécialiste des jardins naturels sur la chaîne YouTube Hortus Focus. Est-ce que vous leur parlez, vous, aux vers de terre, Sébastien Marot?
Eh bien, tous les matins, en fait, quand je...
C'est vrai?
Non, quand je descends...
Vous saluez le vers de terre en vous levant?
Non, mais en fait, je vais chercher mon vélo pour partir travailler, et en fait, sur ma place de parking, il y a deux vélos et il y a un lombricompost. Donc souvent, je vais jeter un petit coup d'œil pour voir si les vers de terre vont bien.
Voir s'ils vont bien.
Alors, je ne leur parle pas, mais quand même, l'intention y est.
Qu'est-ce que vous avez étudié autour des vers de terre en particulier,
J'ai beaucoup étudié l'effet de l'impact des vers de terre sur la croissance des plantes. En moyenne, les vers de terre favorisent la croissance des plantes. Et il y a une synthèse qui avait été publiée dans les années, il y a une dizaine d'années, qui montre que sur les plantes cultivées, en moyenne, rajouter des vers de terre, ça augmente la production de 25%.
Ah oui, donc ils font un boulot considérable.
Ils font un boulot considérable. Alors, il y a différents mécanismes qui sont à l'œuvre. Le mécanisme qui est peut-être le plus connu du grand public, c'est le fait que les vers de terre, ils creusent des galeries. Alors, certains creusent des galeries et puis ils font des agrégats de sol, ce qu'on appelle les turricules de vers de terre. Et en améliorant la structure du sol, ils facilitent l'infiltration de l'eau et ils facilitent la croissance racinaire. Mmh. L'autre mécanisme qui est vraiment très reconnu, qui est peut-être un peu moins connu du grand public, c'est la minéralisation de la matière organique. C'est-à-dire que les plantes, elles poussent en puisant des nutriments minéraux dans le sol, de l'azote, du phosphore, etc. Et quand les feuilles meurent, quand les racines meurent, y a de la matière organique, des molécules plus ou moins compliquées, mais cette matière organique, elle contient de l'azote, du phosphore, etc. Donc s'il n'y a pas des décomposeurs, des organismes qui vont manger cette matière organique morte pour libérer de nouveau l'azote, le phosphore, sous une forme minérale que les plantes puissent absorber, les plantes vont s'arrêter de pousser. Alors il se trouve qu'il n'y a pas que les vers de terre, il y a aussi les bactéries, les champignons, les collempoles, toute une biodiversité dans les sols, mais les vers de terre jouent un rôle très important, entre autres parce que par leur taille, ils peuvent se déplacer dans le sol. Et donc ça, c'est la bioturbation, c'est le fait de mélanger le sol et du coup de mélanger la matière organique des sols avec le sol, la partie minérale du sol.
Donc ils recyclent, c'est ça? C'est un processus de recyclage permanent.
C'est exactement un processus de recyclage.
Ouais. Et donc, évidemment, ils sont absolument essentiels.
Ils sont essentiels.
Et il faudrait les préserver. Or, aujourd'hui, les vers de terre, comme d'ailleurs tous les organismes vivants sur cette planète, quasiment, souffrent aussi des activités humaines.
Oui, tout à fait. Alors, déjà, il y a plus de vers de terre dans les milieux naturels que dans les milieux cultivés. Et ensuite, dans les milieux cultivés, en moyenne, alors, il faut aller chercher les résultats, c'est souvent un peu compliqué, mais en moyenne, le labour et les pesticides sont défavorables aux vers de terre. Alors, assez paradoxalement, il n'y a aucun pesticide, a priori, qui vise les vers de terre, mais en fait, Rachel Carson l'expliquait très bien, les pesticides, ils ne sont jamais spécifiques, et du coup, les vers de terre sont atteints par des pesticides qui ne les visent pas directement.
On va parler agroécologie, justement, avec vous dans un instant, Sébastien Barraud, pour poursuivre cette discussion autour de l'écologie scientifique. Beaucoup de messages pour vous et de réactions sur la page de la Terre au Carré, je vous les transmets dans un instant. Oh. Guide, Olivia Dean sur Inter et Thierry Lupin pour la programmation musicale de l'émission.
France Inter. La Terre au carré.
L'écologie, qui existait depuis fort longtemps, est devenue une science d'avant-garde parce qu'elle va commander toute une série d'actions, d'actions politiques, d'actions sociales, qui deviennent nécessaires. Maintenant, c'est aussi une science synthétique parce que l'écologie comporte une partie de sciences naturelles, de biologie, une partie de sciences physiques, de météorologie, de sciences chimiques. Et à ce point de vue-là, elle a une très grande importance. Notre attitude est celle des hommes de science, c'est-à-dire que nous voulons traiter tous les problèmes par la méthode scientifique, des observations correctes, des mesures si possible, des calculs, des formules aussi exactes que possible, et nous en voulons tirer des conséquences et que nous offrons ensuite aux hommes politiques et au public, c'est-à-dire ceux qui doivent agir. Nous leur donnons les moyens de comprendre ce qui se passe et les moyens de déterminer leur action.
C'est la voix d'un monsieur qui s'appelle Roland Carbinet. Il est naturaliste et pionnier de l'écologie en Alsace. C'était en 1971. Encore une archive de l'ORTF. Sébastien Barraud, vous qui publiez donc aux éditions Belin, L'écologie est une science. Il a dit beaucoup de choses intéressantes là dans cet extrait qui résume d'ailleurs votre pensée. Hein.
Oui, oui, bah c'est bien parce qu'au moins on dit la même chose. Alors ça c'est positif. Ce qui est négatif, c'est qu'effectivement ça se passe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les gens ils ont alerté dans les années 70. Et je ne sais pas à quel point on a progressé maintenant. Enfin, ouais. Je pense que dans les idées, dans l'état d'esprit du grand public, ça a quand même progressé.
Quand il dit l'écologie va commander des actions politiques, alors est-ce que là-dessus, vous vous y retrouvez ou pas aujourd'hui ?
Non, c'est là qu'on n'a pas trop progressé. C'est-à-dire que... tout à l'heure, on disait que l'écologie scientifique fait un diagnostic. Le diagnostic que font tous les chercheurs en écologie, les rapports de l'IBES, c'est que les sociétés humaines ont détérioré la biosphère et la biodiversité à toutes les échelles. On a surexploité la biodiversité. Alors évidemment, c'est un problème éthique. Est-ce qu'une espèce a le droit de massacrer toutes les autres? Mais c'est aussi un problème pour les humains, puisque sans biodiversité, les sociétés humaines vont s'effondrer. Ou si on laisse le climat continuer à se réchauffer, on va au-devant de souffrances humaines énormément. Donc le pouvoir politique, dont le but est d'assurer le bien commun, a priori, devrait prendre en compte ces résultats scientifiques pour une transformation environnementale des sociétés.
Et alors, comment ils devraient opérer, justement, les écologues comme vous, pour mieux se faire entendre? Parce que vous dites que pour le moment, malheureusement, vous avez bien du mal à vous imposer, que vous êtes très peu entendu, mais il faut quand même peser dans le débat public aujourd'hui. Donc ça, c'est une remise en question aussi, peut-être, de votre méthodologie là-dessus. Comment est-ce que vous y avez réfléchi?
Alors, je pense que c'est bien, effectivement, que chacun balaye devant sa porte, y compris les chercheurs en écologie comme moi. Et ce que je dirais, c'est que ça a été un long processus. C'est-à-dire qu'au départ, les chercheurs, ils restaient dans leur laboratoire et puis on se disait, on produit des résultats scientifiques et forcément, ça va percoler dans la société. Ça fait un bout de temps maintenant qu'on se rend compte que ça ne marche pas comme ça. Il ne suffit pas de produire des résultats scientifiques, surtout qui sont publiés dans des revues en anglais que personne ne lit à part quelques chercheurs. Du coup, il faut sortir des laboratoires. Moi, ma façon de faire ça, ça a été pour le moment d'écrire ce livre. J'ai écrit quelques tribunes, j'ai participé à la formation des fonctionnaires. J'avais participé aussi à une opération de formation des nouveaux députés il y a deux mandats. Par contre, c'est même pas sûr. Enfin, tout ça, je pense que c'est important. Et je me sens à l'aise là-dedans, donc je vais continuer à faire ça. Après, c'est même pas sûr que ça suffise. Et du coup, je pense que vu l'urgence de la situation, tout est bon à prendre. Il faut essayer tout, y compris de s'asseoir devant des bulldozers qui construisent un autoroute, y compris d'autres façons de mettre en avant nos idées de manière pacifique, mais pour se faire entendre.
On fait un petit jeu de rôle. Je suis Laurent Duplomb, sénateur. Je milite pour la réintroduction de certains néonicotinoïdes, pour plus de mégabassines, pour une extension de l'élevage intensif. Qu'est-ce que vous, Sébastien Barraud, avez à me dire sur ces choix que je préconise?
Alors, on peut regarder en détail chacune des mesures de la loi. Moi, ce que j'ai envie de dire en prenant un peu de recul, c'est que cette loi, elle vise juste à maintenir un système agricole qu'on sait ne pas être durable. Et du coup, si on regarde les résultats scientifiques, alors des résultats qui sont produits par des écologues, mais aussi des agronomes, des climatologues, on sait que le système agricole mondial, et en particulier la partie intensive de l'agriculture, n'est pas durable. Et quand on dit le terme durabilité est un peu galvaudé, mais quand je dis que l'agriculture n'est pas durable, ça veut dire qu'elle va s'effondrer. Ça veut dire que concrètement, alors je ne peux pas dire dans combien d'années, à un moment donné, elle ne va plus pouvoir nous nourrir.
Parce que sur le terrain, c'est déjà ce que vous observez finalement ?
Bah oui.
En anticipant les scénarios ?
Tout à fait. Il y a deux chiffres par exemple. Il y a 30% des sols à l'échelle mondiale qui sont dégradés. Il y a un rapport de la FAO qui va sortir dans pas longtemps. Donc l'agriculture intensive dégrade les sols. Si l'agriculture intensive dégrade les sols, bah on ne pourra plus cultiver ou en tout cas on a déjà des pertes de rendement. L'autre chiffre important, c'est que l'agriculture à l'échelle mondiale produit 20 à 25% des gaz à effet de serre. Donc l'agriculture propulse en avant le réchauffement climatique en fait l'agriculture souffre déjà du réchauffement climatique. Actuellement, on a des rendements qui stagnent, voire qui diminuent à cause du réchauffement et à cause des aléas climatiques qui ont augmenté.
Donc moi, Laurent Duplomb, qu'est-ce que vous me dites en substance ? Pour synthétiser votre pensée.
Eh bien, je dis.
Vous allez me parler de vers de terre ou vous allez être plus offensif ?
Oh, je vais être un peu plus offensif. Je vais dire, vous ne connaissez pas la science. Vous ne connaissez pas la science et en faisant fi de ce que disent les scientifiques, vous allez à l'encontre du bien commun. Le problème, c'est vraiment le bien des Français, le bien de tous les êtres humains sur la planète Terre. Et si l'agriculture ne peut plus nous nourrir, ben on va forcément à l'encontre de souffrances effroyables.
Et vous pensez le convaincre en disant ça ?
Je ne suis pas trop sûr, faudrait que j'ai l'occasion de discuter avec lui.
Allez, on passe aux questions des auditeurs et auditrices. Et on passe à vos messages vocaux. On va écouter d'abord la note vocale de Gilles qu'il vient de nous laisser sur l'application Radio France.
Bonjour la Terre au carré, voici ma question. Comment peut-on sensibiliser les Français sur l'environnement alors que le changement climatique vient en 7e position dans la liste de leurs préoccupations ? Merci.
Sébastien Barraud.
Alors, il me semble qu'il y a des sondages qui étaient un petit peu plus favorables à l'environnement. Je ne sais plus à quel rang ça venait, mais les enjeux environnementaux dans certains sondages...
C'est dans les trois premiers.
Ouais, voilà, exactement. Si j'avais une réponse précise à cette question, je serais quelqu'un de... comment dire, de génial, je ne sais pas. Parce que ce n'est pas une question facile. Première réponse facile, il faut écrire des livres de sensibilisation et essayer de rendre accessible la science au grand public. Et
Il faut qu'il soit lu.
Et je pense que c'est c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas facile. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'écologie, c'est une science compliquée, comme toutes les sciences, y compris qui passe par des statistiques, des modèles mathématiques, etc. Je pense que le livre que j'ai écrit, il s'adresse à un grand public, mais ça reste compliqué et tout le monde ne le lira pas. Je pense qu'il faut... en fait, diversifier les approches. C'est-à-dire que peut-être que ce livre touchera un certain public, mais on peut faire des bandes dessinées, des films, des pièces de théâtre. On peut
enseigner aussi peut-être plus tôt à l'école les disciplines de l'écologie.
Alors, j'ai un fils qui est en terminale et il a eu quelques cours d'écologie, mais c'est quand même pas, ça va pas très 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 loin. Mm-hmm. Donc, je pense que ça pourra aller plus loin, y compris depuis l'école primaire. Il y a vraiment une sensibilisation qui peut se faire vraiment très jeune et progressive et qui doit passer par tous les outils possibles.
Vincent nous dit que l'écologie politique et l'écologie scientifique sont complémentaires. Vous semblez mépriser la démarche politique, ce qui est navrant.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense que c'est important de remettre sur la table le fait que l'écologie, c'est une science. Alors je pense que ça aidera à convaincre quelques personnes. Mm-hmm. Ça ne suffira pas à convaincre tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des climato-sceptiques, même si a priori, on reconnaît que la climatologie, c'est une science. Et a priori, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une science, et il faut recommencer par arriver à ce constat. Et par contre, c'est une science qui supporte tout... qui fait le même diagnostic que tous les mouvements environnementalistes, les partis politiques qui ont un programme pour une transition environnementale. Mmh. Et en gros, ces courants sociétaux prennent en compte les résultats des recherches en écologie et du coup ils ont un rôle évidemment très important.
Pascal nous dit dans la Loire, dire que rien n'a été fait depuis les années 70 en matière d'écologie est quand même un peu faux car il y a beaucoup d'interdictions par exemple sur des produits polluants qui sont entrés en vigueur depuis 50 ans.
Alors, je pense qu'il y a beaucoup de progrès dans l'opinion. Il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent sur le droit pour faire progresser le droit et voir ce qu'il faut interdire, autoriser. Par contre, enfin, tout ce qu'on voit quand on regarde les chiffres, c'est que pour le moment, on n'a pas enrayé les pertes de biodiversité, on n'a pas enrayé le changement climatique. Et du coup, on est loin de ce qu'il faudrait faire. Et ce qui est important, c'est que moi, en écologie, je peux dire comment changer les pratiques agricoles. Par contre, c'est la société qu'il faut transformer. Et pour transformer la société, il faut vraiment faire des efforts politique très, très important, et il faut aussi s'appuyer sur les sciences humaines, sur les économistes, sur les sociologues, sinon on n'y arrivera pas. Et pour le moment, je pense qu'on est loin du compte pour cette transformation.
Roland nous dit, à force de vouloir rester indépendant, les scientifiques se sont eux-mêmes éloignés du reste de la population, et ce sont les politiques qui ont récupéré le débat.
Alors que les politiques récupèrent le débat, c'est très bien. Ça veut dire qu'il y en a qui écoutent les scientifiques, et du coup, ça c'est très bien. Par contre, c'est vrai que pendant longtemps, les chercheurs on pensait que aller dans la société, aller vers la société, c'était nuire à l'impartialité de leur science. Maintenant, on sait que c'est faux et qu'aller vers la société, ça nuit en rien à l'objectivité de nos recherches et de nos résultats.
Donc l'engagement, ce que vous disiez tout à l'heure, ne pas avoir peur parfois même à aller sur le terrain, se mobiliser et manifester même. On va écouter la voix d'Éric, il a une question pour vous.
Bonjour, c'est Éric. Je m'interrogeais, au même titre que la physique et la chimie, à quand est-ce que l'on met la science, l'écologie dans la sensibilisation des programmes scolaires, au lycée, au minimum, ou peut-être même avant. Merci.
Voilà, ça poursuit ce que vous nous disiez un petit peu tout à l'heure.
Oui, mais du coup, je pense qu'il y en a, il y a un peu d'écologie dans les programmes scolaires, mais je pense qu'il n'y en a pas assez. Je pense que, ouais, vraiment, ça a été très progressif, et c'est trop progressif. Et de nouveau, ouais, c'est compliqué, parce que c'est vrai que l'écologie, c'est une science de la complexité qui doit se baser sur la biologie, sur les autres sciences de l'environnement. Et il faut poursuivre.
Très vite, Florence demande, est-ce que vous savez où en est la formation à l'écologie, au changement climatique des élus, des préfets, des hauts fonctionnaires, à laquelle s'était engagé le gouvernement il y a plusieurs années maintenant?
Alors, c'est quelque chose qui a bien marché. Moi, j'avais participé à une opération où on touchait les chefs de cabinet, vraiment les hauts fonctionnaires. Après, j'ai fait deux séances pour former les gens dans les ministères. Et en fait, mon ancien chef, Luc Abadie, avec Jean Jouzel, était à la tête de tout ça. Et je crois que c'est un peu à l'arrêt pour le moment. Je ne sais pas où ça en est.
Bon, bah, il faudrait un petit peu les choses. Ouais. Merci Sébastien Barraud. Ça s'appelle L'écologie est une science et c'est publié aux éditions Belin. Merci d'être venu nous en parler. Merci à Lucie Sarfati qui a préparé ce dossier, Jérôme Boulet à la réalisation et Sofiane Aktib à la technique. Fabrice Rouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
Affaires sensibles dans un instant.
Aujourd'hui, Vatican II, quand l'Église tente sa révolution.
À tout de suite.